Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Joseph. Moi, je suis charpentier de profession et j'appartiens à la tribu de David. Je ne sais pas si vous connaissez David. Oui, c'est ça, comme le roi David. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je viens d'une petite ville appelée Nazareth. C'est pas très connu, mais toujours plus que le petit patelin dont je suis originaire, qui s'appelle, lui, Bethléem. Je répète, Bethléem. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de vous raconter mon histoire. Parce que on peut dire que mon histoire, elle a quelque chose d'unique. Alors, je vais vous passer tout le blabla sur mon enfance, paisible. Enfin, ouais, paisible, si on compte pas les bagarres avec mes frères ou les blagues qu'on faisait à Rabbi Jacob. Non, vous n'avez pas besoin forcément de savoir tout ça. Bref, mon histoire a commencé par une nouvelle. Vous savez, des nouvelles, il y en a des fraîches, il y en a des anciennes, il y en a des surprenantes, des déconcertantes. Et franchement, dans mon cas, il y avait tout lieu de se demander si le fait que la Vierge soit enceinte était une bonne nouvelle. De mon point de vue, je dirais même que c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Non mais franchement, réalisez, enceinte! J'arrivais pas à le croire. Comment est-ce qu'elle avait pu me faire ça à moi? Son fiancé! Pourtant, cette journée, elle n'avait pas si mal commencé. J'avais passé une super nuit, le soleil était au rendez-vous, Simon était passé pour me remercier pour la table que je lui avais faite, et Marie était passée me voir au travail. Ah, Marie, la personne la plus humble, la personne la plus simple, la plus honnête que je connaisse. En y repensant, je me souviens qu'elle paraissait soucieuse. Elle voulait me parler de quelque chose. Enceinte. Et le Père? Le Saint-Esprit, m'avait-elle dit. Non mais pour qui est-ce qu'elle me prenait? Bien sûr, le Saint-Esprit. Franchement, à ce stade, je savais absolument pas ce que je devais faire de cette nouvelle. Peut-être que dans quelques siècles, une telle nouvelle ne sera plus choquante. Peut-être que les relations de couple vont fonctionner différemment, que les gens vont plus forcément se marier. Peut-être même il y aura des enfants hors mariage. Je sais pas, moi. J'imagine un futur hypothétique. Mais mes amis, on sait bien qu'à notre époque, c'est une toute autre histoire. Je vois qu'il y a quelques non-juifs dans cette salle. Ah oui, vous connaissez sûrement pas trop nos coutumes, donc je vais essayer de la faire brève. Ce qui est arrivé à Marie, là, de tomber enceinte, mais pas de son époux, c'était la honte. La honte. Pour nous, être fiancé, c'est comme être marié. En Israël, les fiancés concluent en présence de témoins une promesse de mariage. Un contrat, si vous voulez, un truc juridique, quoi. Ça peut pas être dissous. Il y a que la mort ou le divorce qui peuvent dissoudre ça. Mais bien qu'officiellement mariés, en Israël, les époux vivent chacun de leur côté pendant un an environ. En gros, Marie et moi, on vivait pas ensemble. Elle habitait encore chez ses parents, mais aux yeux de la loi, on était mariés. Mariés. Bref, Ce n'est qu'après une cérémonie publique que l'homme et la femme peuvent vivre ensemble comme, bah, vous savez quoi, des époux. Hein. Mais si jamais la jeune fille, elle a une relation, disons, intime, avec un autre homme, bah, l'époux, il a 3 options. Une première option, c'est d'exiger le divorce, bien entendu. Et ça, ça se fait au cours d'un procès public. Mais vous imaginez la honte pour Marie. Le regard des gens, leur jugement, tout ça, ça l'aurait mis à l'écart. Voire pire. Non, j'étais blessée, vraiment, mais pas au point de la déshonorer. Bah, la deuxième option, du coup, c'était de nous marier quand même. Mais alors, dans ce cas, c'est la honte pour moi. J'aurais été vue comme le mec qui peut pas attendre jusqu'au mariage pour, vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez le dilemme? J'ai donc réfléchi à la troisième option. Rompre mes fiançailles avec Marie comme un honnête homme respectueux de la loi de Dieu. C'était le moindre mal, en fait, divorcer secrètement. On pouvait le faire hein, en présence de 2 témoins, je savais déjà à qui j'allais demander, en fait. Hein. Et puis au moins, ça permettait que personne ne sache, du moins tout de suite, la raison de ma décision. Marie, enceinte. Ouais, c'était une mauvaise nouvelle. Vous savez, ces choses qui nous tombent dessus sans qu'on ait rien demandé. Ça a dû vous arriver à vous aussi, non? Vous savez, on a l'impression que tout va bien, on avance, et puis... Bam ! D'un coup, il y a un lourd poids de soucis qui vient s'ajouter sur nos épaules. Et on ne sait pas comment on va s'en sortir. C'est comme une voie sans issue. J'en étais là. Je cherchais une solution avec mes propres forces, mais à la fin, j'étais résignée. La seule chose que je devais faire, c'était de me tourner vers Yahvé, vers l'Éternel. Continuer à respecter sa loi et lui demander de la sagesse. Qu'est-ce que j'allais faire? Mais un adage dit qu'une nouvelle n'arrive jamais seule. Et mon expérience l'a montré, en fait. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, est plein de surprises. Il m'a montré qu'une mauvaise nouvelle pouvait se transformer en une bonne nouvelle. Marie venait de m'annoncer la mauvaise nouvelle et elle m'avait laissé là, la bouche bée, et il fallait que je digère ça. Ce soir-là, j'ai mis tellement, mais tellement de temps avant de m'endormir. C'est comme, vous savez là, quand votre esprit il continue à tourner, il me laissait pas en paix. Bon, j'ai quand même réussi à m'endormir. Et là, vous allez pas me croire ce qui est arrivé cette nuit-là. Un ange. Oui, vous m'avez bien entendu. Un ange m'est apparu en rêve. C'était un rêve, mais pourtant, il paraissait si réel. Pour peu, j'aurais pu tendre la main et le toucher. Il m'a apporté de la part de Dieu une nouvelle qui a radicalement tout changé. Alors que moi, j'envisageais sérieusement de quitter Marie, Dieu, lui, avait un tout autre plan. Vous vous rendez compte ? Dieu avait un plan pour moi. Bon, en fait, si je veux être complètement honnête, l'ange a déjà dû commencer par me rassurer parce que j'étais mort de trouille quand je l'ai vu. Mais Dieu avait un plan pour moi et c'était ça son message. Yahvé me connaissait. Il savait même que je descendais de David. Et Yahvé s'est adressé à moi à travers l'ange. En fait, j'ai réalisé qu'à ses yeux, j'étais pas qu'un être de plus sur cette grande terre. J'étais quelqu'un d'important, une personne qui compte, qui a de la valeur. Bien sûr, vous allez peut-être me dire, enfin Joseph, on parle de l'Éternel quand même, il sait tout. Comment tu pouvais en douter ? Oui ! Oui, bien sûr, j'en étais conscient que l'Éternel sait tout. Mais là, c'était concret. Il venait me parler. Je pouvais pas l'ignorer. Yahvé me connaissait et il connaissait aussi, à ma plus grande honte, mon projet de rompre avec Marie. Si je peux vous donner un conseil d'amis, ne pensez pas pouvoir échapper à Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait tout de chacun d'entre nous ici présents. Il vous connaît depuis toujours, il me connaît depuis toujours, moi, Joseph. Il vous aimait avant même que vos parents aient pensé à vous. Vous êtes important. Je ne sais pas si vous en êtes conscient aujourd'hui, mais vous êtes important. Que vous le vouliez ou non, d'ailleurs. Et comme pour moi, Dieu a un plan pour vous. Enfin, revenons à mon histoire. Donc, du coup, par ce rêve, l'ange a confirmé la version de Marie. Elle était bien tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et moi qui l'avais pas cru. J'étais soulagée hein, quand même. Vraiment. Hein. Marie n'avait pas été infidèle. Bah, du coup, le nouveau plan, c'était de rien changer au plan initial. D'épouser Marie lors d'une cérémonie publique. À ceci près que, du coup, j'allais adopter un enfant qui n'est pas le mien et l'élever comme le mien. Ce jour-là, Dieu a fait de moi un père. Finalement, dans cette histoire, il n'y a pas que Marie qui a été choisie comme parent du Fils de Dieu. Moi aussi. Et grâce à ça, mon fils serait lui aussi un descendant du roi de David. En tant que père, me revenait aussi la tâche de donner un nom à l'enfant. Alors là encore, Dieu avait pensé à tout. On appellerait ce fils Yeshua, Jésus. Vous savez ce que ça veut dire ? Dieu sauve. Souvent, on donne des noms aux enfants en espérant qu'ils incarnent telle ou telle vertu. Là, c'était pas en espérant qu'ils l'incarneraient. Yeshua était le Dieu qui sauve. L'ange a dit qu'il serait celui qui sauvera son peuple des péchés. Et alors là, j'étais sans voix. Et je vous jure que pour arrêter de me faire parler, il en faut. Mon fils serait le sauveur promis. Mon fils, ça serait ce Messie qu'on n'attendait même plus tellement il se faisait tarder. Mais Dieu avait tenu sa promesse. Il avait tenu sa promesse d'envoyer quelqu'un pour sauver son peuple d'Israël. Nous, on l'attendait avec impatience, ce Messie. On espérait qu'il allait nous sauver de l'occupant romain. Le grand libérateur. Pourtant, c'est pas du tout ce genre de libération que l'ange a annoncé. Lui, il a parlé de délivrance des péchés. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que notre vision des choses était un peu étriquée. Dieu, lui, avait une vision beaucoup plus large. Ça nous arrive souvent, ça. De voir les choses comme ça, alors que Dieu voit comme ça. En fait, le plan d'amour de Dieu pour son peuple, c'était le délivrer d'une prison qui était beaucoup plus profonde. Le péché. Pas des Romains. Les Romains, ça passerait. Tout comme les Grecs avant eux ou les Perses avant eux. Et Dieu sait ô combien on a été occupés. Non, c'était pas ça. Dieu voulait résoudre la question du péché une fois pour toutes. Il voulait s'attaquer à notre cœur. Et ça, mes amis, ça c'est une nouvelle encore d'actualité. Pas que pour les Juifs. Bah parce que sinon vous seriez pas concernés, hein, on a bien vu que vous étiez pas juifs. Non, c'est une nouvelle qui concerne tout le monde. Vous savez, ce péché, l'éternel problème là de la race humaine, cette petite chose qu'on appelle désobéissance, c'est une tache sombre dans notre relation avec Dieu. Je vais essayer un peu de résumer la situation, mais avant que Satan entre en scène, tout allait bien, je pourrais même dire tout allait sacrément bien. Mais bon, on connaît l'histoire. Adam, Ève, le serpent, le fruit interdit. Elle croque, il croque. Ils sont bannis. Bref, une histoire comme on les déteste. Tout le monde meurt à la fin. Ah, je vous ai spoilé. Ça va? Bref, maintenant, l'homme, il peut pas s'empêcher de rejeter Dieu et tout ce qu'il représente, comme un ado avec ses parents. Bref, depuis Adam, je suis pécheur, tu es pécheur, nous sommes tous pécheurs, breaking news. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Dieu a donc mis au plan plusieurs stratégies. Il a commencé par faire alliance avec les hommes. Il s'est dit que dans le cadre d'une alliance, bah, ils ne pourraient pas se détourner. Mais bon, ils se sont tournés vers des dieux en bois. Ah, heureusement, nous, on ne fait plus ça. Et puis, il a envoyé les prophètes, des messagers, pour transmettre un message d'amour. Je vous ai créés. Vous êtes mes enfants. Je vous aime. Revenez à moi. Mais bon, ils n'ont pas écouté non plus. Ces prophètes, et alors là, c'est dingue, ils ont même annoncé des choses qui allaient se passer dans le futur. Par exemple, il y en a un, Ésaïe, qui a annoncé, je cite, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ça vous rappelle pas quelque chose ? Tadam ! C'est mon histoire ! La bonne nouvelle de l'ange, en fait, c'était l'accomplissement d'une promesse qui datait. Attendez. Attendez. De 800 ans ! 800 ans avant moi ! Vous vous rendez compte? Dieu n'avait pas oublié sa promesse! Je j'entends de plus en plus parler d'une fête qui s'appelle Noël. D'ailleurs, je crois que c'est bientôt. Ben, voilà le vrai message de Noël. Il se trouve dans le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a littéralement choisi de quitter son ciel et de venir lui-même sur terre, homme parmi les hommes, dans la peau d'un enfant, mon fils, Yeshua, Jésus. Jésus a fait des miracles. Il a réexpliqué les commandements. Il a montré de l'amour envers les gens, quelle que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur caste sociale, même les plus rejetés, même les plus haïs. Il a montré de l'amour jusqu'à mourir sur une croix. Le pire châtiment. Y a-t-il de plus grand amour que de mourir pour ses amis ? Ben, Jésus est mort pour tous, amis ou non. Aucun de nous méritait ça, mais lui, il l'a fait. Alors, comme vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité. Il est toujours vivant, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle. Ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, quand même, hein. Et il vit en chacun de ceux qui croient en lui. Une présence permanente. Voilà la vraie signification de ce Noël. Voilà la vraie bonne nouvelle de mon histoire. On pourrait même dire que c'est une sacrée nouvelle, vous croyez pas ? C'est pas juste la naissance du Sauveur, mais tout ce que ça a impliqué ensuite. Cette bonne nouvelle, elle est encore d'actualité. Tout le monde doit l'entendre. C'est pour ça que j'ai été invitée pour vous parler aujourd'hui. Pour certains, c'est un rappel. Pour d'autres, c'est une découverte ou une redécouverte. Moi, je veux vous laisser cette question. Maintenant que vous l'avez entendue, cette nouvelle, qu'est-ce que vous allez en faire ? Voilà mon histoire. Je m'appelle Joseph. Je suis charpentier. Je suis père de Jésus-Christ. Tout a commencé par une nouvelle et fini par une nouvelle. Dieu a su transformer ce qui me paraissait une mauvaise nouvelle en une nouvelle si bonne qu'elle a chamboulé toute ma vie et celle de milliers de personnes après moi. Entre la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, il s'en est passé des choses, des questionnements, des doutes, des peurs. Mais au milieu de tout ça, j'ai eu bien raison de garder confiance en Dieu. Parce qu'il s'est révélé. Il m'a rassuré. Il m'a montré mon importance à ses yeux. Il m'a montré son amour pour moi. Et il peut faire ça pour vous aussi. Ne pas s'arrêter aux mauvaises nouvelles, mais voir la bonne qui peut être cachée derrière. Vous savez, la naissance de Jésus nous a sacrément interpellés, Marie et moi. À mon tour, j'aimerais qu'elle ne vous laisse pas indifférent. Que vous connaissiez son histoire ou pas, posez-vous cette question comme je me la suis posée au moins 1000 fois. Et moi, comment je réponds à l'amour de Dieu. comment je réponds à l'amour de Dieu ? Par de l'indifférence ? Ou par de l'amour ? Dans un mois, on va fêter Noël. Et c'est le moment de nous rappeler du vrai message. La venue de Jésus, du Dieu qui sauve. C'est le moment de recevoir, ou pas, cette bonne nouvelle. Et c'est le moment de la propager à tous ceux qui la connaissent pas. Voici le texte biblique. En Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Seigneur, du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus.